Ville, d'après Robert Louis Stevenson, mise en scène et interprétée par Denis Podalydès.
Nous arrivons à mon cabinet, spacieux, tu vois, pas moins de 3 fenêtres, en grillagé qui donne sur la cour. Et tu vas me poser la question, pourquoi ce miroir en pied ?
Retrouvez le cas Jekyll dans les émissions de France Inter.
Aujourd'hui...
Ah, je serais tout à fait d'accord sur ce point, et en effet...
Tout au long de la journée, retrouvez la pensée et les mots d'Albert Camus dans les émissions de France Inter.
En effet, mais par superstition, j'aimerais ne pas en parler beaucoup.
À partir de 17h, dans Nonobstant, Yves Calvi recevra Olivier Todd, auteur en 1996 de Albert Camus, Une vie.
À 18h15, le regard des Algériens sur Camus. Dans Et pourtant elle tourne, Jean-Marc Four invitera pour en parler Amazigh Kateb, le fils de Kateb Yassine.
Et à 20h05, Kathleen Evin parlera BD dans L'humeur vagabonde avec Jacques Ferrandez, qui signe l'adaptation d'une nouvelle d'Albert Camus.
Aujourd'hui,
journée spéciale sur France Inter.
Albert Camus,
l'obsession démocratique.
France Inter.
La différence.
On retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bah, c'était juste un petit message pour vous souhaiter une bonne année et puis une bonne année sarkozyste surtout parce que, à mon avis, on est mal barré pour obtenir un peu de gauche chez nous. Et moi, je suis saisonnier en camion et je suis pas le seul parce qu'on est plein et on galère. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a le droit qu'à 50% de nos acéliques maintenant, et c'est-à-dire à peu près 400 euros par mois, quand on travaille pas, c'est-à-dire 4 mois de l'année. Enfin voilà, donc super année qui s'annonce pour nous, et puis à bientôt, merci pour tes émissions surtout, et essaye de penser à nous, un de ces quatre, nous saisonniers. À bientôt, ciao.
Bonjour aux AMG de France et d'ailleurs. Nous sommes les ch'tites de Pinky et d'Iramod, et nous vous appelons en direct d'Étainpuis, Belgique. Nous sommes en grève depuis le 19 décembre. Notre directeur Eric Vandendriche a décidé de profiter de la crise économique pour nettoyer l'entreprise de 190 personnes. Nous bloquons les sites de Neuville-en-Ferrain et de Wascal dans le nord de la France. Les piquets de grève sont toujours là malgré les températures négatives. Pour se faire entendre haut et fort, nous sommes allés voir comment les émigrés fiscaux français se portent à Étainpuis, au Royaume de Belgique, où un quart de la population est française et ne paie même pas d'impôts locaux. Ici, c'est plein de grandes maisons toujours vides qui permettent l'économie de l'impôt sur la fortune. D'après M. Benoît Boussemard, sur son blog www.larichessedesmilliers.com, la société fait plus de 10 millions d'euros des bénéfices annuels nets. Monsieur Gérard Mullier, vous qui dites « faites passer l'homme avant le fric », pourquoi avez-vous donné l'ordre de faire cela? Parce que nous sommes des femmes? Depuis plus de 2 semaines, des mères de famille se relaient 24 heures sur 24, dehors par un froid glacial, et attendent votre bienveillante réponse. La famille Mullier, c'est aussi Auchan, Decathlon, Flunch et tant d'autres dans le monde, où des restructurations sont en cours. Vive la concurrence libre et non faussée. Aux autres salariés de la famille Mullier, on dit à bientôt au Pôle emploi. C'était les ch'tites de Pinky et d'Iramod qui remercient leur direction pour avoir passé Noël et Nouvel An dans la rue. Stop à ces plans de licenciement qui n'ont aucun objet. À bientôt et meilleurs vœux.
Bonne année à tous. Bonne année Daniel, bonne année l'équipe, bonne année à tous. Bon bah ça commence mal. Faut revendre les vaccins. Il y en a trop, ça sert pas. Donc faut les revendre, on va les revendre moins cher qu'on les a achetés quoi. Quand il faut brader, c'est ça. Hein. Donc même ceux qui n'auraient pas été piqués, ils vont payer, quoi. Il faut être plus, voyez où on l'a. Ils sont bons, hein. Ceux qui nous dirigent, ils sont bons. Hein. Ça me rend confiance, rien que pour le départ, ça me rend confiance. Allez, salut, bon courage à tous, ciao.
Bonjour à tous les AMG. Nous vous annonçons le deuxième café repère Charolais qui aura lieu à Beaubris, Saône-et-Loire, au café jour de fête, le mardi 5 janvier à 20h30. Au menu... faisons connaissance, nos envies de thèmes pour les prochains repères et le bilan de Copenhague avec Stéphane Kerkhoff d'Agir pour l'environnement. Voilà, venez nombreux avec vos envies et votre bonne humeur et à mardi. Ciao.
C'est bien joli tout ça, bonne année, bonne santé, nanana, nanana. Mais comme disait Octave Mirbeau, n'acceptez pas l'aumône, repoussez la charité, prenez. Car tout vous appartient, bordel de merde. Bonne année à toi, Daniel, et longue vie à ton émission géniale. Salut, c'était Chantal de Paris.
Oui, Daniel, Julien de Lausanne en Suisse. Bonne année. Est-ce que tu as vu les vœux 2010 de l'Elysée? C'est vraiment un truc à voir sur Internet, là, sur le site de l'Elysée. C'est d'une grandiloquence et c'est absolument extraordinaire. Tu rentres, tu vois l'Elysée un peu de nuit, là, et ça commence à s'éclairer sur un fond de musique. Vraiment, c'est pratiquement religieux. Et puis, c'est 2-3 minutes, oui, d'image. On a l'impression d'être un peu sous Louis XVI. Hein, la course se met en scène. C'est d'une indécence absolue, totale. C'est complètement ahurissant. Jamais vu quelque chose comme ça. Je crois qu'on est là vraiment au fin fond de la décomplexitude et de l'indécence. Voilà, à bientôt, Daniel.
Eh ben, merci pour tous ces messages, chers AMG, chers auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Et meilleurs vœux à tous de la part de toute l'équipe. De là-bas, si j'y suis, on reprend la route de l'Inde aujourd'hui vers le Kerala, cet état situé au sud-ouest de l'Inde, ce petit état qui longe la côte. Pourquoi aujourd'hui? Parce que de l'autre côté, il y a Dubaï. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï? Il y a l'inauguration de cette étonnante tour la plus haute du monde qui est inaugurée aujourd'hui même. Une tour de plus de 800 mètres de haut. Ce qui n'est pas rien, bien évidemment, mais qui est inaugurée dans des conditions assez étonnantes, puisqu'il y a peu de temps encore, Dubaï était en faillite, en quasi-faillite, et il y a eu un refinancement, mais très limité, qui rend les choses un petit peu plus sereines, mais on a une confiance très limitée dans la suite de cette folie pharaonique qu'est cette ville de Dubaï. Pourquoi parler du Kerala? Eh bien parce que de très nombreux hommes, pour la plupart sont des hommes du Kerala, vont travailler dans les États du Golfe, dans les Émirats depuis longtemps, mais notamment à Dubaï. En fait, ce sont eux, pas seulement, mais en grande partie eux, qui ont fait cette ville, qui ont construit cette ville et qui ont construit cette tour, cette haute tour de plus de 800 mètres. Nous les avons rencontrés au Kerala. Pourquoi là, au lieu de Dubaï? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont été renvoyés, licenciés, le mot est fort, c'est tout simplement renvoyés chez eux parce que, ben voilà, suspension des travaux, des commandes et des chantiers. Donc, jetables, renvoyés chez eux, ce qui est une catastrophe pour l'économie du Kerala. Voilà notre sujet aujourd'hui, les conséquences des difficultés, disons, j'hésite à dire faillite, de Dubaï à l'occasion de l'inauguration de la plus haute tour du monde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, je voulais dire bonjour à Daniel et à l'équipe de là-bas si j'y suis. La musique et les images ont parlé ce matin et quel beau poème, quel beau support pour de nouveaux combats liés à notre environnement. Sachez que je continuerai à vous attendre chaque jour sur les ondes en 2010. Et oui, vous m'êtes devenu indispensable.
Message aux AMG du repère de Limoges. Depuis 2005, le Woodstock Boogie Bar nous ouvre ses portes dans une ambiance chaleureuse chaque premier mercredi du mois. Ce lieu convivial va hélas fermer et nous avons accueilli la nouvelle avec tristesse. Le mercredi 6 janvier, ce sera donc notre dernière réunion en ce lieu et nous avons décidé d'une soirée un peu spéciale pour remercier toute l'équipe du Woodstock et les AMG qui sont venus au cours de ces années, certains très régulièrement, participer à nos discussions parfois animées. Nous aurons donc pour l'occasion la présence de Pablo, militant libertaire argentin, pour quelques jours en France et qui viendra nous parler des résistances sociales en Argentine. Comme toujours, nous pourrons débattre autour d'un verre et pour ceux qui le souhaitent, poursuivre un peu plus longuement la soirée. Nous vous espérons nombreux à cette dernière soirée organisée avec la complicité de Mémoire à Vif et de la CNT 87 au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovie, à partir de 18h30.
J'appelle pour laisser un message pour les AMG de Nîmes et des environs, pour dire que notre repère se tiendra exceptionnellement au bar des Ramblas, qui est à 50 mètres de notre lieu habituel de rencontre, ce mercredi 6 janvier, à partir de 19h30. Merci bien, à bientôt, au revoir.
Un obélisque presque sans fin.
BFM TV, 3 janvier 2010.
Voici Burj Dubaï, la plus haute tour du monde. Ses promoteurs maintiennent le secret sur sa hauteur exacte, mais une chose est sûre, le gratte-ciel dépasse les 800 mètres, 818, voire plus, selon des spécialistes. Ce gigantisme version béton, verre et acier pulvérise l'ancien record, les 509 mètres de la tour de Taipei, paraissent presque ridicules. Des milliers d'ouvriers, 6 ans de travaux pour réaliser les rêves pharaoniques d'un homme, cher Mohammed, le souverain de Dubaï. Et d'ailleurs, si l'inauguration a lieu le 4 janvier, c'est pour célébrer son accession au trône il y a 4 ans exactement. Après les îles artificielles, Burj Dubaï vient ajouter un nouveau record à cette ville quasiment sortie des sables en une cinquantaine d'années. Nouveau record, peut-être aussi l'un des derniers. Dubaï a connu une grave crise financière en 2009. Sa dette est estimée à 100 milliards de dollars.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil. Kerala, Dubaï et retour.
Flight number 2. Arriving from...
What's name, Shiraz? Lady, yes, sir.
Shiraz, 18 ans.
Asif.
Asif.
Asif, 29.
29 ans.
Siad, 30 years.
Siad, 30 ans.
Adi, 30 years.
Et Adi, lui, il a 30 ans.
Tous, vous revenez de Dubaï.
Yes.
Vous avez tous les quatre, là, travaillé à la construction des très, très hautes tours de Dubaï.
Ok.
Oui.
Novotel.
Novotel.
Maker Company.
Quand est-ce que tu es rentré?
Il y a
3 mois.
3 mois?
5 months.
Il y a 5 mois.
3 months.
3 mois.
1 week.
Il y a une semaine.
Ah, une semaine. Et pourquoi tu es rentré il y a une semaine?
J'ai perdu mon travail.
Yes.
J'ai passé 3 ans là-bas.
3 ans. Toi, tu as passé combien de temps?
6 years.
6 ans.
4 years.
4 ans.
Avec la compagnie qui contracte sur Ravana, Pani Ravana, Adigarnam.
Comme le contracteur a perdu son contrat, nous on a perdu notre travail.
The company he was working is a concrete mixing company which used to supply for the construction the sites in Dubai. But because of the recession, all the construction work stopped. So basically it's affected their company, the supply and demand.
En fait, ils travaillaient pour une compagnie, une cimenterie, et aussi pour le béton qu'ils fournissaient pour les entreprises de construction. Et comme les constructions se sont arrêtées et freinées, du coup, ceux qui faisaient les cimenteries et les bétons ont du coup perdu leur contrat aussi.
Et dans quelles conditions vous êtes parti? Est-ce que vous avez eu des indemnités pour votre départ?
Rien.
Rien du tout.
Only people who completed 5 years, the company paid compensation. Less than 5 years, whoever worked, they didn't pay anything.
C'est seulement au bout de 5 ans de contrat que la compagnie te paye une indemnité. Si tu fais moins de 5 ans, tu pars les mains dans les poches.
Quand tu as le billet d'avion, tu as combien de temps pour partir à partir du moment où ils t'ont demandé de partir?
As soon as possible.
Dès que possible.
Without visa, we cannot stay there.
Sans visa, on ne peut pas y rester, n'est-ce pas?
Ah, d'accord.
Without visa, they can put us jail. No?
Sans le visa, on peut finir en prison.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils te disent de partir... Tu as un mois, sinon tu te retrouves en prison.
That's the labor law.
C'est la loi du travail.
No, that's UA labor law. I don't...
La loi est ainsi.
C'est la loi du travail des Émirats Arabes Unis. UAE. Trois lettres qui ornent des t-shirts qu'on voit assez souvent au Kerala et dans la ville où nous sommes, Varkala par exemple. Des t-shirts qui sont fièrement portés, fièrement arborés par des jeunes, des gamins et des hommes de fière allure. Pourquoi je parle de ça ? UAE, ça veut dire United Arab Emirates. Émirats arabes unis. Ah, et pourquoi arborer un tel t-shirt avec autant de fierté ? C'est toute l'ambiguïté de la situation de ces travailleurs du Kerala qui reviennent, qui se fait jeter comme des malpropres de Dubaï suite à l'arrêt des chantiers, mais qui tirent de cette migration, d'être allés là-bas, une certaine fierté. À la fois, bien sûr, ils se plaignent, à la fois, bien sûr, ils savent très bien ce qui leur est arrivé, ils ne savent pas du tout s'ils retourneront un jour ou l'autre à Dubaï, et ils sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans cette situation suite à l'interruption des chantiers, des travaux, ils ont une certaine fierté d'être allés là-bas et d'avoir construit cette ville un petit peu comme les maçons de la Creuse, sans doute avec Paris, toute proportion gardée. C'est toute l'ambiguïté très ancienne du migrant, du travailleur migrant. C'est avec eux qu'on va passer cette heure, avec ces hommes du Kerala qui ont été ainsi remerciés. Environ 2 millions de travailleurs de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, et aussi des femmes, mais aussi des femmes d'autres régions du monde, des Philippines, viennent travailler à Dubaï et dans les Émirats. 90% de la population de Dubaï est une population étrangère, sauf seulement 10% sont des Émiratis, des gens du cru. Ils font travailler ces 90% d'étrangers, dans des conditions, vous avez vu, extrêmement rudes, avec des conceptions du droit du travail qui sont bien particulières. Et l'inauguration aujourd'hui de cette tour se fait dans un climat qui n'était pas celui que nous avions rencontré en 2006 lorsque nous avons fait des suites de reportages à Dubaï. Depuis, la crise financière est passée par là. La ville a été à deux doigts de la faillite. Il y a eu un renflouement le 14 décembre dernier. L'émirat voisin, Abu Dhabi, a renfloué à hauteur de 10 milliards de dollars l'émirat de Dubaï, sans qu'on sache quel est l'avenir réel de cette ville cinglée, pharaonique, dont vous connaissez les excès, les délires, aussi bien pour ce qui concerne le social que l'environnement. C'est un défi total à toutes les logiques actuelles en matière d'écologie. Mais tout ça, nous le voyons depuis le Kerala, depuis cette ville de Varkala, avec ces travailleurs fiers de leur t-shirt UAE, UAE. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Varkala, Dubaï et retour.
Thomas Isaac.
Je suis Thomas Isaac.
I am currently the finance minister of Kerala.
Actuellement, je suis ministre des Finances du Kerala.
And a communist.
Et un communiste.
Alors, c'est deux choses qui nous intéressent. Et un homme intéressant, Isaac Thomas, ministre, vous avez entendu, ministre des Finances de l'État du Kerala, qui a bien précisé qu'il était communiste. C'est un détail très important dans cet État du Kerala qui est à majorité communiste actuellement. C'est un cas particulier. En Inde, en 1957, pour la première fois dans l'histoire, démocratiquement, les habitants du Kerala se choisissaient un gouvernement communiste qui, en l'espace de 2 ans, a entrepris un certain nombre de réformes radicales qui ont changé la vie dans cet État. Et depuis, ces réformes n'ont pas été remises en cause malgré l'alternance avec le parti du Congrès qui, à plusieurs reprises, a été élu à la tête de cet État singulier et très beau et très sympathique. Aujourd'hui, c'est à nouveau le Parti communiste indien qui est au pouvoir au Kerala. On viendra sur l'histoire du parti des partis communistes en Inde. Il y a le Parti communiste de l'Inde, le Parti communiste de l'Inde marxiste. Il y a le Parti communiste de l'Inde marxiste-léniniste et le Parti communiste de l'Inde marxiste-léniniste maoïste. Au moins 4. Et là, celui-ci, c'est le Parti communiste de l'Inde. On pourrait dire un parti social-démocrate. Voilà, ça correspond un petit peu à ce genre de catégorie vue sous l'angle européen. Alors, les réformes qui ont été mises en place dans cet État concernaient la répartition des terres et aussi l'éducation, si bien que les gens sont très éduqués par rapport aux autres États de l'Inde. Il n'y a pas d'analphabétisme dans cet État, ce qui fait exception. Il y a un niveau de formation assez élevé, ce qui fait des habitants, des travailleurs du Kerala, eh bien des gens qui sont recherchés par les Émirats comme main-d'œuvre, comme salariés, parfois aussi comme contremaîtres dans des postes un petit peu d'encadrement. Et c'est ainsi qu'ils ont été nombreux, très nombreux, à migrer vers les États, vers les Émirats du Golfe, et notamment à Dubaï. Ils sont ceux qui ont construit cette ville et ceux qui ont construit notamment cette tour qui est inaugurée aujourd'hui même à Dubaï. Ils ont été renvoyés, comme on l'a suggéré. Déjà, on va avoir des explications sur les conditions de ses retours et sur leur avenir, mais d'abord le point de vue du ministre des Finances du Kerala, Isaac Thomas. Je vous dis qu'on parle de Dubaï, je crois que c'est un homme sur 20 du Kerala travaille dans les Émirats. Et là, il y a une crise terrible qui est en train d'éclater à Dubaï. Est-ce que vous pouvez évoquer cette situation?
Kerala has had centuries long relation with Middle East.
Le Kerala a une très longue histoire de relations avec le Moyen-Orient.
We were the interport. Chinese goods used to come to our coast, then Arab dhows would pick it up from here and take it to Middle East.
Ici, c'était l'entrepôt. Les Chinois amenaient les produits d'exportation et les Arabes venaient les chercher ici pour les ramener jusqu'au Proche-Orient.
Because of these historical links and because of the educated labor power in Kerala, we were able to take advantage of the job opportunities when the Gulf boom came.
À cause de ces relations commerciales historiques et aussi à cause du fort niveau d'éducation au Kerala, on a été en mesure justement de saisir les opportunités d'emploi quand il y a eu ce boom des Émirats Arabes Unis, de Dubaï en particulier.
Today, around 2 million citizens of this state are working in various Middle Eastern countries.
À ce jour, il y a 2 millions de citoyens du Kerala qui travaillent dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient.
And they send back remittances.
Et bien sûr, ces expatriés renvoient de l'argent, des devises ici.
That remittances come to 20-25% of the total value that we in Kerala produce.
Et ça représente 20 à 25% de la richesse produite au Kerala.
So this has enabled the people in the state to have a very high level of consumption.
Donc ça a permis à beaucoup de gens dans cet état d'avoir un niveau de consommation très élevé.
When you travel Kerala, you look around, even the villages, you'll find a lot of very paka, good buildings.
Et en voyageant dans le Kerala, vous verrez, dans chaque village, on voit des belles maisons.
Now, we are worried about the crisis in the Gulf.
Et donc maintenant, nous sommes très inquiets au sujet de la crise dans le Golfe.
Voilà, exposé par le ministre des Finances, la situation. Vous voyez que c'est énorme. 2 millions d'hommes du Kerala qui travaillent dans les Émirats pour une population de 30 millions. C'est dire s'ils font vivre, en fait, cet État au quart. Le quart de la richesse du Kerala est assuré par ces travailleurs. Et c'est dire si l'interruption des travaux, des chantiers à Dubaï pose des questions. Alors on les appelle NAI, ces hommes-là, Indian Non-Resident. C'est ainsi qu'on baptise ceux qui sont ces expatriés indiens à Dubaï, non-résidents. On précise bien qu'ils ne sont pas résidents lorsqu'ils sont à Dubaï. On les retrouve à Varkala. Vous êtes des NRI, vous?
Oui, nous sommes des NRI.
Non-resident Indians.
Indiens non-résidents.
Mostly the non-resident Indians are in the Gulf countries, including Saudi Arabia, Kuwait, Muscat, United Arab Emirates and Bahrain.
La grande majorité de ces expatriés indiens travaillent dans les pays du Golfe Persique, à savoir Bahreïn, Dubaï, Qatar, Oman, etc.
Recently, after the financial crisis, it's mostly hit by Dubai. And people in Kerala mostly worked in Dubai historically for past 3-4 decades.
Et depuis la crise financière, c'est surtout Dubaï qui est touché. Et c'est donc surtout les Keralais qui, depuis 30 à 40 ans, sont les principaux à aller travailler à Dubaï.
They are the most victimized.
Et c'est eux qui sont les plus victimes.
Basically, all these guys gone, they pay for the visa. And, you know, basically, they all have a joint family, parents, and so they have to support. And with the big loans and they took to pay for the visas and stuff.
Tous ces hommes qui sont là se sont endettés pour pouvoir acheter leur visa, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
Est-ce que vous, tous les quatre, vous avez fini de rembourser la dette initiale?
It took them 3 years to pay it back working in Dubai.
Ils ont mis 3 ans de travail à Dubaï pour rembourser leur dette.
C'est ça. Mais finalement, avec l'argent que vous avez envoyé depuis Dubaï, qu'est-ce que vous avez pu acheter?
Les vêtements pour les membres de famille. Téléphone mobile, etc. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter grand-chose, donc je n'ai rien acheté.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez de l'argent, vous avez des économies. Comment vous vous débrouillez maintenant que vous êtes là? Est-ce que tu as des économies, toi, qui viens juste de rentrer?
Rien. J'ai rien.
Toi?
Savings non là. Savings non kitted là. Kitted là, samedi kitted là. Ollam bitter que bitter que vendi silva ki. Savings non là.
Nous n'avons pas d'économie parce que tout ce que nous avons gagné, nous avons déjà donné à nos parents, etc. Donc nous n'avons aucune économie.
Rien du tout.
Non.
Dubaï, Eldorado néolibéral, c'était le titre qu'on avait donné à la série de reportages qu'on vous a présenté en 2006. Et Mike Davis, le chercheur américain, a écrit un texte sur Dubaï qu'il a intitulé « Le stade Dubaï du capitalisme ». On voit comment sont traités les salariés, les ouvriers qui travaillent dans ces conditions. Mais on voit aussi, et c'est les propos du ministre des Finances du Kerala, comment c'est profitable au Kerala. C'est évidemment, on a compris que l'inégalité à l'échelle mondiale est nécessaire à la réalisation d'une ville comme Dubaï et à cette tour. Il y a toujours du sang de pauvres dans l'argent des riches. Là, voilà quelqu'un qu'on retrouve. On l'avait rencontré en 2006, un Émirati. Je disais à quel point rencontrer ces Émiratis n'est pas une chose si facile.
Okay, my name is Syed Harib.
Je suis Saïd Harab,
manager of Dubai International Marine Club.
Directeur et manager du Dubai International Marine Club.
Also owner representative of Low Meridian Mina Siahi.
Et aussi le représentant du Méridien Mina Siahi.
Et vous êtes un Émirati.
I am local from Emirates, born in Emirates. My father and grandfather come from the seaside.
Oui, je suis né des Émirats. Je suis né aux Émirats, mais mon père, mon grand-père viennent du bord de la mer.
We have very good roots with the sea.
On a des racines très très anciennes
so
avec la mer.
I can say I'm pure local.
Donc on peut dire que je suis un pur autochtone.
Voilà, c'est ce qu'on voulait rencontrer. On voulait rencontrer un pur autochtone.
Yes.
OK. Mais ce qui nous intéresse dans cette conversation qu'on a ensemble, c'est que vous êtes en train de nous donner les secrets de la réussite. Parce que bon, il y a un dynamisme extraordinaire dans cette ville, époustouflant, on n'arrête pas d'employer ce mot toute la journée, c'est époustouflant. Dites-nous pourquoi ça marche.
Secret, you have a good government.
D'abord, c'est d'avoir un bon gouvernement.
Al Maktoum family.
La famille Al Maktoum en l'occurrence.
They are very, very active.
Qui sont très actifs.
They have a long vision.
Et c'est une vision à très long terme.
Not like other government which is still a couple of years, and each government to try to do in a couple of years. And the next government is coming, maybe to try to destroy.
C'est pas du tout comme ces pays où il y a un gouvernement qui est là pendant deux années et qui essaie de faire plein de choses pendant ces deux petites années et que le gouvernement qui va lui succéder va aussitôt le détruire.
We don't have these things in UAE or in.
On n'a pas ça ici aux Émirats Arabes Unis, on n'a pas ça dans les pays du Golfe.
Mais quand même, du point de vue européen, avec notre vision à nous, notre sensibilité à nous, quelque chose est assez choquant ici. C'est la question sociale, c'est la question de la condition des travailleurs étrangers.
OK, like the workers here is most of them from Asia.
La plupart d'entre eux viennent d'Asie.
It's not from Europe.
C'est pas des Européens.
I think so they receive salary more than what they receive in their country.
Et ils touchent ici des salaires plus élevés que ce qu'ils auraient dans leur pays.
And they are working under the labor rules.
Et ils travaillent selon les lois du travail émirati.
And if they don't want, no one going to put them in the plane and told them you must go to the Emirates.
Et s'ils sont pas d'accord, personne les met dans l'avion pour leur dire tu dois partir aux Émirats.
And if tomorrow said I don't want to work, you have a right to turn and he jump in the plane and go back.
Et s'il y en a un qui dit je veux pas travailler ici, bah il a qu'à sauter dans un avion et hop, il peut retourner chez lui.
Look, you saw what is around that and how many projects coming, what is going to.
Vous avez vu ce qui est en train de se passer, tous les projets qui sont en train de sortir de terre, et je vous ai dit ça.
Most of this project was not on the paper.
Tous ces projets, c'est pas sur le papier, c'est des réalités en cours.
Okay, so why not take these things as a positive?
Mais pourquoi faut pas voir cet aspect positif justement?
And we go to the back. To think about small things,
et pas aller en arrière pour penser à des petites choses, des travailleurs, toutes ces choses négatives.
I told you, there is a train.
Je vous dis, il y a un train.
The train is going very fast.
Et le train va très vite.
If no one catches the train in the same time, we lose the train.
Et si on n'attrape pas le train à temps, on le rate.
Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est j'ai l'impression que ce train écrase pas mal de monde.
They're missing the train because they are not update themselves and they stay in the shadow and they are. Crying in the shadow.
Mais parce que c'est des gens qui restent à pleurer dans l'ombre, et c'est pour ça qu'ils ont raté le train, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre à jour.
OK, donc tu vas bien.
I think so, we are very happy and
oui, on
very,
est très content.
Very proud.
On est très fiers
and
aussi.
The very important thing is UAE and Dubai today in the main map of the world.
On en veut toujours plus, toujours davantage, et le plus important c'est que Dubaï et les Émirats Arabes Unis soient au centre du monde.
Dubaï voulait apporter du rêve aux gens fortunés. Il y a tout juste un an, le 20 novembre 2008,
France 24.
L'Émirat organisait une fête grandiose à 20 millions de dollars pour inaugurer l'hôtel Atlantis.
27 novembre 2009.
Un hôtel 7 étoiles, 1500 chambres, 3000 employés, avec certaines suites donnant directement sur un aquarium géant lui aussi. Dubaï, seul émirat du Golfe n'ayant pas de pétrole, a voulu compenser en attirant la clientèle de ses richissimes voisins. Tout son développement économique est basé sur le tourisme et l'immobilier. Mais avec la crise mondiale, le conte de fées est en train de tourner au fiasco. Ces villas, à plus de 2 millions de dollars, ne se vendent pas. Des chantiers sont à l'arrêt. L'économie bâtie à crédit ne peut plus rembourser. L'émirat demande des délais à ses créanciers. Mouvement de panique hier sur les places financières.
Est-ce que le travail était dur là-bas ?
Oui, c'était très difficile. Pendant 6 à 7 mois, il faisait 50 degrés et on devait travailler dans ces conditions.
Et les conditions de logement ?
On n'a pas eu beaucoup de problèmes avec l'hébergement. 6 personnes dans une chambre.
Oui, quand même. Il y a eu une grande manifestation des ouvriers.
à Dubaï l'année dernière, je crois. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Ali Moussa. La compagnie s'appelle Ali Moussa.
Il s'agit d'une compagnie qui s'appelait Ali Moussa.
Il y a une compagnie qui
avait embauché 27 000 employés qui n'avaient pas eu leur salaire pendant 3 mois.
Donc
ils ont manifesté dans les rues, ils ont détruit les camps, les lits, etc. La police a calmé la situation et ils ont reçu leur salaire.
Vous êtes allé dans la rue avec eux?
Non, nous n'avons pas pu faire ça parce que si nous l'avions fait, nous aurions perdu notre travail. Mais nous les soutenions moralement.
Mais je vois des gens qui se promènent avec un t-shirt avec UAE, c'est ça? UAE. Il y a une fierté quand même d'être allé à Dubaï, de dire voilà, moi je connais les Émirats et tout. Il y a une fierté. Ça prouve peut-être que Dubaï est un endroit de rêve pour les gens d'ici.
Quand les gens sont ici, qu'ils ont ces rêves et qu'ils pensent que Dubaï c'est fabuleux. Mais une fois qu'on arrive là-bas, on voit combien c'est difficile de vivre là-bas.
Mais est-ce que vous en avez profité un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est magnifique, ces grandes tours, cette vie, ces plages, ces bars, etc. Est-ce que vous avez profité un petit peu de tout ça ou pas du tout?
On n'avait ni le temps ni l'argent pour en profiter. Nous travaillions 10 à 12 heures par jour et puis après, dès qu'on revenait, il fallait laver le linge, préparer la cuisine et puis après, on était tellement fatigué qu'on s'endormait, qu'on n'avait pas le temps. Vendredi était le jour férié et vendredi, on passait à dormir.
Vendredi, pour les musulmans, c'est dimanche.
Autour de la piscine, chaque client a son propre petit gazebo qui lui est réservé.
Un gazebo, c'est-à-dire?
Un
parasol.
Plus qu'un parasol, c'est une petite maison recouverte en toit.
Voilà, sa petite maison.
J'ai vu le chantier, là, on entend en plus.
On entend. Et on se dit qu'il y a des gars qui sont là-haut, dans ces grues. Regardez les gars qui sont là-haut. Passer ces 15, 20, 20 étages et qui sont en train de bosser par ce gagnard. Il fait 40 degrés là. La fille qui nous fait visiter, elle s'excuse. On va être obligé de faire quelques pas à travers le jardin, mais ça va être très court. Et c'est un jardin verdoyant avec des jets d'eau et tout. Elle s'excuse de nous faire quelques pas à l'extérieur alors que les mecs passent 10 heures là-haut.
On a ici sur deux étages le spa Givenchy et le hammam oriental au rez-de-chaussée. Mais au spa, vous avez une sélection de soins de visage, soins du corps, massage, selon les standards Givenchy, je dirais la petite touche française de l'hôtel.
Et là, ici, c'est l'endroit le plus sélect des trois hôtels.
Je dirais que les trois endroits sont sélects. Ici, c'est la partie de l'hôtel la plus petite. On a ici que 50 chambres, donc le service est totalement personnalisé. Vous avez déjà ici, l'architecture est beaucoup plus intime, les plafonds sont plus bas, d'où le nom de cette partie de l'hôtel, la résidence. On voulait que nos clients se sentent chez eux.
Alors c'est que du marbre et des boiseries et des ferronneries.
S'ils se sentent chez eux, ça veut dire que chez eux, c'est quand même déjà assez...
C'est pas mal.
Assez chic.
Une vue,
une fontaine, des plans d'eau qui descendent vers une terrasse, et alors on voit la mer encadrée par les palmiers, un peu d'air.
Et alors ici on a une petite touche particulière, c'est que tous nos clients, le concierge va vers eux à la piscine et leur propose toutes les facilités services de l'hôtel au bord de la piscine. Vous avez un nettoyage des lunettes autour de la piscine.
Si vous ne pas se nettoyer ces lunettes,
cocktail, on vous nettoie vos lunettes?
Alors la résidence a un restaurant qui s'appelle le dining room, la salle à manger, où le chef, il a bien sûr un menu disponible, mais vous suggère également d'accommoder les plats selon votre envie, comme à la maison. On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse. Donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures?
Tout à fait. Tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils étaient contents de leur bouillabaisse?
Ravis.
Alors, je ne sais pas si ça vous fait rêver, si vous avez envie de savourer une bouillabaisse à Dubaï. C'est un petit peu compromis quand même. Maintenant, c'est un petit peu chancelant, tout ça. C'est un petit peu à l'arrêt. C'est pas l'Harbin encore, c'est pas encore le Titanic. Il y a eu ces prêts, ce soutien opportunément survenu de la part du voisin Abu Dhabi, mais les conditions évidemment ne sont pas aussi optimistes qu'elles l'étaient, et le triomphalisme n'est plus du tout ce qu'il était il y a 3 ans, lorsque nous avons rencontré par exemple cet exécutif directeur de One and Only.
Nous, c'est la compagnie One and Only. Nous sommes arrivés ici il y a 8 ans de cela. Il n'y avait rien autour de nous, que du sable. Le mythe, c'était un mirage se créer au milieu de ce désert de Dubaï. 3 ans après, nous avons construit 2 autres hôtels. Donc celui-ci où nous sommes aujourd'hui s'appelle le Palace. Nous avons après construit l'Arabienne Courte, qui fait 175 chambres. Et au milieu de tout ça, un très beau petit bijou qui s'appelle la résidence et son spa Givenchy. Donc un petit complexe hôtelier maintenant de presque 500 chambres. Donc j'ai eu la chance de faire partie de cette vague d'expatriés qui est arrivée sur Dubaï il y a à peu près 10 ans de cela. Vraiment le Dubaï Inc. Startup, une vraie startup. Peu de gens étaient prêts à miser sur le succès. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin d'une expansion fabuleuse. On a du mal à croire tout ce que l'on voit déjà construit. On a du mal à croire tout ce qu'on voit à construire. Et vous l'avez vu, la cité internet, médias, loisirs, médical, investissement, real estate, sportive. Toutes les recettes à succès observées dans le monde entier sont aujourd'hui...
Toutes les recettes à succès, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ils s'inspirent de tout ce qui marche dans le monde.
Voilà.
On n'arrive pas à croire que tout ça sera construit. C'est-à-dire quand on nous dit, voilà, ça va être construit, on ne croit pas. On pense que c'est des maquettes. On pense que c'est des gamins qui s'amusent avec des maquettes, qui sont très gentils, très souriants, très sympathiques. On ne pense pas une seconde qu'ils feront tout ça.
Écoutez, vous avez derrière vous une maquette qui s'appelait Dubaï Marina, qui a été lancée il y a 3 ans. Elle comprenait 70 gratte-ciels. Vous comptez aujourd'hui, ce n'est plus 70 gratte-ciels, ce sont 100. Essayez d'acheter un appartement aujourd'hui, vous avez du mal. C'est ça qui est surprenant. Donc, tout ce qui a été fait depuis 10-15 ans marche. Pourquoi ce qui est annoncé pour les 10-15 prochaines années
ne marchait pas?
Alors, il y a des succès.
Et vos projets alors?
On ouvre un petit boutique, hôtel fantastique sur l'île Palmier, la fameuse île Palmier, qui est en face, avec 10 villas et une petite marina privée, côté un petit peu Riviera. Et nous allons construire un petit ponton sur notre plage, avec des très beaux bateaux, style Riva, emmèneront la clientèle d'un hôtel à l'autre. C'est agréable, un petit verre de champagne. Il n'y a pas un modèle au monde qui peut afficher une telle croissance. Donc pourquoi ne pas y croire ? Dubaï, c'est Dubaï Inc. Dubaï Incorporated. C'est une grosse société, donc nous contribuons tous à cette société. De la même façon que si je travaillais dans une grosse société en France, je contribuerais à cette société. Donc Dubaï devient ma société. Il y a un patron, le cheikh Mohamed, et Dubaï est géré en effet comme une grosse société.
L'ouvrage n'a pas encore coulé, mais il est déjà submergé par un océan de dettes.
LCI, 26 décembre 2009.
Des îles en forme de palmiers, mais aussi de nombreux gratte-ciels, dont la plus haute tour du monde. Dubaï les a bâtis en empruntant des milliards de dollars. Une bulle immobilière en train d'exploser. Le principal promoteur annonce qu'il ne pourra pas honorer ses prochaines échéances et demande à renégocier l'intégralité de sa dette, soit près de 60 milliards de dollars. Dans cet émirat en quasi-faillite que les expatriés commencent à déserter, les prix de l'immobilier ont chuté de 40% en un an. De nombreux chantiers sont déjà interrompus depuis plusieurs mois.
Ce qui est frappant, c'est l'absence totale de visibilité dans ces projets, dans ces plans. On ne sait pas du tout où on va. Le monsieur exécutif directeur qu'on vient d'entendre disait « Oh bon, ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas à l'avenir ?» Mais il n'y a aucune planification, aucune certitude. On ne sait pas si on est dans le brouillard ou si on va dans le mur. Là, on est... peut-être pas tout à fait dans le mur, on a évité peut-être le mur, mais on ne sait pas où on va. Vraiment, on ne sait pas où on va, on sait qu'on est dans le brouillard, même s'il y a cette tour extraordinaire qui est inaugurée aujourd'hui, donc à Dubaï. Au retour au Kerala, avec les travailleurs qui ont construit cette ville et qui ont été jetés comme des Kleenex.
Moi, j'aimerais bien savoir, comme je sais que vous avez travaillé très durement pendant des années à Dubaï, etc. Mais quels souvenirs vous ramenez de cet endroit? Qu'est-ce que vous avez ramené comme image, comme nostalgie de Dubaï?
Dubaï, on est un poste country, un big building.
Un pays très riche avec de grandes tours.
Amazing vehicles,
lot of vehicles. Formidables.
Only building, rare building.
Beaucoup de bâtiments, beaucoup de constructions.
Et toi, les images?
Le climat.
Very warm.
Très chaud, très chaud.
Avec du gazon, de l'herbe partout, des gens qui jouent au golf.
English car, golfman.
C'est pour les étrangers. C'est le jeu pour les Anglais, pas pour nous.
Est-ce que vous avez rencontré des Dubaïs? Vous vous êtes fait des amis locaux?
Non. Pakistanais, Bangladesh, Sri Lanka.
Les Sri Lankais, les Bangladeshis,
oui.
Les Népalais.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant? Est-ce que vous pouvez retrouver du travail ici?
Ici, on ne peut pas trouver un travail satisfaisant parce que nous n'allons toucher que 7 000, 8 000 roupies et ça ne suffira pas pour les besoins de nos familles. Nous essayons de retourner à Dubaï pour trouver un travail dans une autre compagnie.
Mais là, les dernières nouvelles, c'est que Dubaï est en faillite et donc tous les programmes sont arrêtés pour l'instant.
Toutes les compagnies ne vont pas périr. Il y en a certaines qui vont continuer quand même.
Même si les conditions sont dures, vous êtes prêt à y retourner?
Oui, nous pensons sérieusement à ça parce que de toute façon ici il n'y a pas d'emploi pour nous.
Mais moi j'ai mangé au restaurant hier soir et les serveurs venaient du Népal. C'est des sans-papiers du Népal. Hein. C'est-à-dire que les Népalais sont au Kerala, ce que les Keralais sont à Dubaï, non?
Pour les Népalais, les coûts de vie ne sont pas aussi élevés que ce qu'ils sont pour nous. Il y a eu beaucoup d'inflation en Inde, de presque 30 à 40% pour les dépenses quotidiennes.
Within 1 year.
Dans l'espace d'un an, d'une année. Et en plus, nous avons un système social très différent du Népal. J'ai une sœur, par exemple, qu'il faut marier. Et en Inde, nous avons le système de la dot. Je dois donner 25 lakhs roupies de dot.
2 500 000 roupies.
Donc, nous avons beaucoup de dépenses.
Mais pourquoi il faut que tu donnes de l'argent pour que ta sœur se marie?
C'est le système qui est en vigueur ici. Ça fait partie des traditions.
C'est-à-dire que si je veux marier ma fille, il faut que je paye.
Oui, c'est ça.
Et que tu payes à peu près 35 000 euros.
Et puis tous les frais encourus pour le mariage. Il y aura au moins 1 000 personnes qui seront invitées, donc tout le village à inviter.
Et sinon, qu'est-ce qu'elle devient?
Elle ne va pas pouvoir se marier. Elle sera rejetée. Tout le monde ici ne pense qu'à marier leur sœur. C'est comme ça. Il faut qu'elle se marie.
It's not socially accepted that a girl is standing at home without marriage, because it's a part of the culture. This age, they have to get married. So normally the parents fix, and the girl's family has to pay.
La société n'accepte pas que la fille reste chez ses parents quand elle a dépassé un certain âge. Donc, entre 20 à 24 ans, il faut qu'elle se marie. C'est comme ça, ça fait partie de la culture.
Paye. Il faut que la famille
paye. Et la famille paye. Et la plupart des filles font des mariages arrangés. Donc, ce sont les parents qui trouvent un époux pour elles.
Ça pose de tels problèmes pour les familles qu'on préfère ne pas avoir de filles du tout. Et on a des quantités d'avortements à cause de ça.
Avortement sélectif.
Et donc, l'échographie ici est détournée, est utilisée pour voir le sexe de l'enfant. Et selon l'échographie, on décide d'un avortement pour éviter d'avoir des filles. Si bien que ça se traduit dans les chiffres de la démographie, avec moins de femmes en Inde en général que dans les autres pays. Sauf au Kerala. Sauf au Kerala, où à cause de l'éducation, la bonne éducation, il y a autant de femmes que d'hommes. La dette de la dot, il y a certaines régions où si la famille ne paye pas après le mariage, parce qu'il y a des possibilités que la famille du garçon fasse crédit. Et si on ne paye pas, alors il y a des pressions qui sont faites sur la famille de la fille et sur la fille elle-même jusqu'au feu de Sari, jusqu'à ce qu'elle soit brûlée.
Conclusion provisoire avec le ministre des Finances du Kerala, Isaac Thomas.
Our worry started a year back.
Et nos problèmes ont commencé il y a un an de ça, à peu près.
When the financial crisis broke out.
Au moment de l'explosion de la crise financière.
The Gulf financial institutions are also affected.
Parce que les institutions financières du Golfe, elles aussi étaient touchées.
And we feared there would be massive return migration.
Et donc notre crainte, c'était un retour massif de migrants.
It did happen.
Et c'est ce qui a eu lieu.
Our net migration became negative.
Et donc notre taux d'immigration est devenu négatif.
However now, suddenly, panic has set in.
Mais maintenant, ces derniers jours, c'est la panique.
And that is going to affect some 500,000 workers from Kerala who are there in UAE.
Et ça risque d'avoir une forte conséquence pour les quelques 500 000 Keralais qui travaillent dans la construction aux Émirats Arabes Unis.
If you don't have a job, you can stay in Dubai. There's no social security.
Parce que sans boulot, c'est pas possible de rester à Dubaï. Il n'y a pas de sécurité sociale.
You will have to come back home.
Il faut revenir alors à la maison.
There are many things that would happen.
Et il y aura beaucoup de conséquences.
See, going to Gulf requires investment.
Parce que pour pouvoir partir au Golfe, c'est déjà un investissement.
You have to buy your visa.
Il faut acheter le visa.
You have to get their ticket and so on.
Avoir un billet d'avion.
So you borrow.
Donc les gens s'endettent pour pouvoir partir.
Now wages are so low, you will have to work at least for 2 years before you can recoup your investment.
Et donc il faut travailler au moins 2 ans avant de pouvoir rembourser son investissement.
So anybody who loses job before 2 years of work there, he will be coming back indebted.
Donc tous ceux qui ont perdu leur boulot avant la fin de ces 2 ans reviendront au pays avec des dettes.
And when they come back here, they won't have jobs here. There's already high level of unemployment in our state.
Et quand ils vont revenir ici, ils vont pas trouver de boulot parce qu'il y a déjà un chômage assez important dans l'État.
So it's going to be a big problem.
Donc on va avoir des problèmes, des gros problèmes.
Because finance minister is worried, I'm worried.
Donc moi, en tant que ministre des Finances, je suis très inquiet.
How much I will have to shell out?
Parce que à combien je vais devoir contribuer pour couvrir tout ça?
Parce que quand vous dites 500 000 travailleurs du Kerala qui sont dans les Émirats, ça veut dire qu'ils envoyaient leur argent ici. C'est-à-dire qu'ils font vivre des centaines de milliers de personnes. C'est donc des familles entières, des villages entiers qui vont se trouver en difficulté.
Absolutely.
Bien sûr.
As I told you, the money they send back here enables a large section of the population to live a decent life.
Parce que c'est l'argent qu'ils envoient ici qui permet à une très grande partie de la population de vivre décemment.
Inauguration donc de cette tour, la tour la plus haute du monde aujourd'hui même à Dubaï. 330 000 mètres cubes de béton vont être salués aujourd'hui même. Merci à tous. C'était un reportage avec Yvan Kiel, traduction Padma Natarajan, montage Catherine Pinto, merci à nos amis de Varkala. J'ai évoqué le livre de Mike Davis, le Stade Dubaï du capitalisme, à lire aussi Le Réveil de l'Inde, un numéro spécial du monde diplomatique, Manière de voir, dans cette collection Manière de voir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Eric Neviel, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, modeste générale, il faut bien le dire, assisté d'Agnès Lebot et Catherine Pinto, encore elle, attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
De plus en plus de gagnants loto le lundi. Oui. Que puis-je faire pour vous?
Eh ben moi, ce que je déteste le plus le lundi, c'est la routine. Mm-hmm. Hein, les embouteillages, le bureau, la cantine, enfin le train-train.
Train-train, oui.
Eh ben, quand j'ai appris qu'il y aura un jackpot le lundi, je me suis dit, ouf hein.
Ça change.
Voilà, seulement j'ai pas bien saisi. C'est quel lundi exactement?
Ah, mais tous les lundis.
Tous les lundis.
Tous les lundis.
Eh ben dis donc, ben, c'est du train-train, mais de première classe. Oui.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Chou-chou hein.
FDJ.
16h30 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Devant le tribunal de Portsmouth en Grande-Bretagne, Benjamin Choca, 20 ans, s'est déclaré coupable. Le jeune homme a reconnu avoir fait entrer illégalement 16 Vietnamiens en Angleterre, cachés dans une fourgonnette que conduisait sa maman. Celle-ci comparaîtra mercredi. On saura alors si elle s'accuse également ou si elle plaide non coupable. Elle avait dit lors de son arrestation qu'elle ne savait pas qu'il y avait des clandestins à bord. Il n'y aura donc pas de procès pour Benjamin. Le juge doit rendre sa décision le 29 janvier prochain. Éric Besson présente cet après-midi le premier bilan du débat sur l'identité nationale. 26 000 des 50 000 contributions ont déjà été analysées par la TNS Sofres. Et contrairement aux idées véhiculées, ce débat ne se focalise pas sur l'immigration et l'islam, vient d'expliquer le ministre en donnant un chiffre. Moins d'un tiers y font référence. L'immense majorité des contributions est parfaitement respectueuse de nos valeurs républicaines, a-t-il ajouté. En tout, 227 débats locaux ont eu lieu sur les 313 programmés. Ce lundi est son premier jour officiel de travail et il prend une première initiative. Le nouveau président de l'Europe, Herman Van Rompuy, convoque un Conseil européen. Ce sera le 11 février prochain. Un sommet extraordinaire consacré à la relance de la croissance économique en Europe. Nous avons besoin de davantage de croissance économique en vue de financer sur une base solide notre modèle social et pour préserver notre mode de vie européen. C'est ce qu'il explique dans un communiqué. MAM tente de rassurer les robes noires. La ministre de la Justice a défendu la future réforme de l'instruction devant quelques 1400 élèves avocats réunis pour la rentrée solennelle de l'école de formation du barreau. Cette réforme prévoit la suppression du juge d'instruction. Michel Alliot-Marie a promis qu'aucune affaire ne pourra être étouffée à aucun stade de la procédure. Il sera interdit, dit-elle au garde des Sceaux, d'ordonner le classement sans suite d'une affaire. Et si en fin d'enquête le parquet décide d'un non-lieu, eh bien les victimes pourront contester cette décision devant un juge de l'enquête et des libertés. Le butin est estimé à plusieurs millions d'euros, mais les malfaiteurs n'ont pas pu tout emporter. Un commando d'une dizaine d'hommes lourdement armés a braqué un fourgon de transport de fonds ce matin près de Marseille. Les hommes sont toujours en fuite. Les coups de feu échangés avec la police n'ont pas fait de blessés. Autre attaque, celle d'un bureau de poste de Bagnolet en Seine-Saint-Denis vers 7h30. Ce matin, des malfaiteurs ont fait sauter avec des explosifs la porte donnant accès au coffre. On ne sait pas s'ils ont réussi à emporter de l'argent. La brigade de répression du banditisme est chargée de l'enquête. Et puis, deux camionnettes des Restos du Cœur de Toulouse ont disparu, vraisemblablement volées, elles aussi. Des véhicules qui servent à la distribution des repas chauds le soir. C'est lamentable, ont déploré des bénévoles. Un nouveau contrat pour Airbus. Turkish Airlines va acheter 14 A321-200 et 6 A319-100 à l'avionneur européen. Elle met une option pour 10 autres appareils de ligne. La compagnie turque a augmenté de 74% le nombre de ses passagers. C'est en 3 ans. Le Nigeria conteste les accusations des États-Unis. Les autorités estiment injuste le fait d'avoir été placé sur la liste des pays à surveiller après l'attentat raté de Noël contre un avion américain.
France Inter présente Tétro, le nouveau film de Francis Ford Coppola, actuellement au cinéma. Chaque famille a ses secrets. Tétro a quitté la sienne il y a 10 ans et s'est exilé en Argentine. L'arrivée à Buenos Aires de son jeune frère Benny fait remonter à la surface des secrets de famille jusqu'ici bien enfouis. Retrouvez Tétro de Francis Ford Coppola dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit
la fille de la peau,
Renan Luce,
une bande d'imbéciles heureux,
Isabelle Maïro, et rend hommage à Django avec Raphaël Faïs, Yorgi Lefleur et Steve Lafond.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Qu'en est-il de la musique d'Albert Camus ? Eh bien, tout simplement, il y a pas mal de traces et il y a pas mal de signes très importants. Par exemple, dans Le Premier Homme, roman inachevé, dont on a trouvé le manuscrit après l'accident, une sacoche, le fameux accident d'il y a 50 ans précisément, le 4 janvier 1960, eh bien, on trouve des réunions de famille. Il y a une grand-mère, qui est peut-être celle de l'auteur d'ailleurs, qui aimait quand il y avait des visites de ses filles, veuves de guerre ou de sa sœur, elle aimait faire de la musique, demander en tout cas à ses petits-fils de s'exécuter, et d'exécuter au sens propre quelques partitions. Il y avait un violon zigzagant, dit Camus, celui d'Henri, et puis l'autre frère chantait, et les préférences de la grand-mère allaient à une chanson où elle aimait sans doute la mélancolie et la tendresse qu'on cherchait en vain dans sa propre nature. C'était la sérénade de Toselli qu'Henri et Jacques, les petits-fils, détaillaient avec assez de brio. Dans l'après-midi ensoleillé, 4 ou 5 femmes vêtues de noir, ayant toutes, sauf la grand-mère quittait leur foulard noir d'espagnols, rangés autour de la pièce pauvrement meublée aux murs crépis de blanc, approuvait doucement de la tête les effusions de la musique et du texte, jusqu'à ce que la grand-mère, qui n'avait jamais pu distinguer un do d'un si, et ne connaissait d'ailleurs même pas les noms des notes de la gamme, interrompit l'incantation d'un bref « tu as fait une faute » qui coupait la chic aux deux artistes. On reprenait « là », comme disait la grand-mère, et quand le passage épineux était franchi de façon satisfaisante à son gré, on dodelinait encore, et pour finir, on applaudissait les deux virtuoses qui démontaient d'urgence leur matériel pour aller rejoindre les camarades dans la rue. Petite torture pour les petits-fils, leur pupitre, leur violon, leur voix un peu intimidée, mais une belle musique, on la comprend, la grand-mère. Voici la sérénade de Toselli, compositeur italien qui était né en 1883, quelques paroles en français. Viens, le soir descend et l'heure est charmeuse, viens, toi, si frileuse, la nuit déjà comme un manteau s'étend.
Sogno d'oro scolpito
woven ma fu molto breve in me la dolcezza di quel ben svanì quel bel sogno lasciando in me il dono sempre più tristi di la gioventù passata sarà rimpianto mi resta sol sì rimpianto amaro e dolce